L'émission de Francis Barrault sur la randonnée et la découverte de sites extraordinaires, c'est maintenant et c'est sur les ordres de Radio Galaxy 98.5. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons remonter le temps pour découvrir des villages abandonnés ou semi-abandonnés et leur architecture. J'ai presque envie d'intituler cette émission « Village fantôme, l'authenticité d'un voyage ». Et oui, il y a des lieux où règne une impression de paix, où des émotions se partagent dans le silence. Ces lieux où les chemins d'histoire deviennent parfois des sanctuaires de légendes, où les hommes qui habitent encore certains de ces villages vivent au rythme ancestral. Et la Sierra de Guara, dernier soubresaut des Pyrénées, fait partie de ces généreuses régions qui offrent tout un éventail de sites et d'architectures authentiques, ainsi qu'un paysage d'une incroyable beauté. Mais avant d'aborder deux journées de randonnée à la découverte de ces villages, voici quelques notions sur l'architecture que nous pouvons rencontrer. Tout d'abord, parlons des toits et des cheminées de ces villages abandonnés. Le type de toiture est l'une des grandes caractéristiques distinctives des styles d'architecture des maisons des Pyrénées. Le souci majeur qui animait la construction d'un toit était d'aménager le plus de place possible sous les combles, tout en tenant compte de la pente du toit. Elle était primordiale pour résister aux matériaux de couverture et aux intempéries qui pouvaient s'y abattre dessus, comme la neige, vent violent, grêle, etc. etc. Le chaume, l'ardoise, les lauzes et les tuiles étaient les matériaux traditionnels de couverture, dont le choix était dicté par la géologie du terrain, la pente du toit et les us et coutumes locaux. Les toits d'ardoise, avec les pignons en marche d'escalier, sont la marque des maisons de la montagne. Les toits des habitations rurales des Pyrénées étaient soit à deux versants, soit formés de quatre versants de dimension inégale. L'ardoise des carrières locales est dans sa version ancienne de grande taille, de forte épaisseur et très résistante aux intempéries et aux chocs, à l'inverse des ardoises récentes qui sont très fines et très fragiles. Le point fort des ardoises d'aujourd'hui est leur légèreté, 40 kg par mètre carré, alors que l'ardoise ancienne, la lauze si vous préférez, était très lourde, 100 kg par mètre carré. Le toit en chaume resta en usage jusqu'au XIXe siècle dans certaines vallées des Pyrénées. Même s'il était remarquablement isotherme et efficace contre les intempéries, il avait un gros inconvénient qui accélérera sa disparition au profit de l'ardoise, il pourrissait rapidement. La souche d'une cheminée est un élément architectural qui caractérise le toit d'une maison. Dans certaines régions, sur la souche de la cheminée, on déposait une pierre en forme de chouette ou de visage humain. On appelait ça l'épouvantail à sorcière. Il était là pour protéger la maison des maladies, des malveillances d'autrui. Ça, ce sont des croyances populaires, mais qui restent encore en vigueur dans le Haut-Aragon. En général, nous trouvons deux styles de foyers dans les vallées pyrénéennes. Le foyer central, où toute la famille se réunissait autour, et la cheminée murale, souvent construite sur la partie nord de la maison. Les anciens avaient observé que le vent du nord permettait un bon tirage pour l'évacuation de la fumée du conduit de cheminée. Et en général, le soir venu, c'est au coin du feu que se rassemblait toute la famille, d'où l'expression « le foyer ». Dans un village abandonné, en architecture, on peut retrouver aussi les balcons qui servaient de séchoir pour le linge, les bouses de vache qui elles servaient après pour faire du feu. On peut retrouver aussi des belles portes, des heurtoirs, des belles poignées qui tous symboliquement représentaient quelque chose. Maintenant je vais continuer à m'attarder mais sur les cadrans solaires que l'on trouve dans les Pyrénées et qu'on peut trouver dans ces vieux villages abandonnés. À l'heure de la montre à quartz, il peut paraître archaïque en plus de parler de cadrans solaires, mais si aujourd'hui nous avons le temps universel et l'heure légale et non l'heure solaire la vraie, il n'en a pas toujours été ainsi dans les Pyrénées. Depuis une période très reculée, le soleil et la lune rythmaient le temps du peuple pyrénéen. L'histoire du cadran solaire est aussi ancienne que celle des hommes. Par exemple, les énigmatiques menhirs entourés de cercles de pierre ou cromlech, là où il y a une pierre dressée au milieu, que nous trouvons sur nos cols des Pyrénées seraient peut-être les premiers instruments élaborés par nos ancêtres pour diviser le déplacement de l'astre solaire et lunaire. On peut aussi émettre l'hypothèse que l'homme préhistorique des Pyrénées déterminait l'heure de midi en posant verticalement son arc ou son javelot droit, un bout contre le sol, et regarder la longueur de l'ombre qui diminuait au cours de la première partie de la journée, puis s'allongeait à nouveau dans la seconde partie, permettant aux chasseurs de prendre le chemin du retour pour arriver avant la nuit. Durant la nuit aussi, les bergers de l'Ariège retrouvaient l'heure en regardant la constellation d'Orion. Dans chaque vallée, les montagnes servaient de repère pour connaître l'heure. D'ailleurs, plusieurs sommets portent le nom de pic du midi. Malgré les idées reçues, le cadran solaire prit une grande extension à l'apparition des montres, car c'est lui qui sert à la remise à l'heure de toutes les horlogeries, même les plus sophistiquées. Et c'est à partir du 19e siècle qu'une nouvelle génération de cadrans solaires fait son apparition, du style le cadran cubique, le cadran hémisphérique, le cadran fontaine, etc. etc. Certains sont de vraies œuvres d'art, d'autres, en multiface, sont des objets scientifiques d'une véritable précision. En plus de son utilité, il se prête à une grande variété de formes et de décorations pour les jardins, les façades, les places du village, le mobilier intérieur aussi. En fait, il évoque la chaleur et la douceur de vivre au rythme du soleil. Mais c'est l'arrivée de la radio qui indique l'heure du jour comme de la nuit. Par tous les temps, tous les lieux, on ne regarde plus l'heure, on l'entend, se rajoute en plus l'heure universelle qui a fait un argument supplémentaire pour sa disparition. Lui qui était fait pour le soleil sombre dans l'oubli, dans l'ombre éternelle de la nuit. Certains sont détruits sans scrupule pour être remplacés par le progrès, c'est-à-dire les horloges électriques. D'autres sont gardés, mais ne sont même plus regardés ni appréciés. Mais comme toute œuvre d'art, cette grande mécanique de la nature, symbole du soleil et de l'éternité, refait surface. La poésie que les hommes ont dans le cœur, peut-être l'envie de reprendre contact avec la nature, fait de lui un messager du soleil, qui reprend sa place sur les façades et dans les jardins. Donc, en visitant des villages abandonnés, n'hésitez pas à lever la tête, regarder les façades des maisons, et vous serez peut-être encore surpris par la beauté de certains cadrans solaires. Nous allons parler maintenant du four à chaux. C'est un petit bâti qui existe dans nos Pyrénées et qu'on connaît très mal, alors en voici un descriptif. Pour nos anciens, la chaux est employée comme désinfectant ou en agriculture pour traiter les sols et augmenter la fertilisation. Elle servait comme liant ou enduit pour la construction de bâtiments avant l'arrivée du ciment, bien sûr. Ce petit bâti est implanté dans un sol riche en calcaire et en principe est construit et adossé directement à une pente naturelle du terrain de telle sorte que l'accès au sommet du four soit plus aisé. Les blocs de calcaire sont réduits en pierre d'une dizaine de centimètres avant d'être chargés dans des hottes et des charrettes qui sont acheminés vers le trou du four appelé le gueulard. Par le haut du four, les cailloux sont disposés de façon équilibrée et aérée pour que les flammes puissent passer à travers du monticule. À la base du four, une ouverture en forme de voûte appelée communément un foyer qui sert à allumer et alimenter le feu qui va calciner les pierres pour qu'elles se transforment en chaux. Les chaufourniers utilisent des combustibles calorifiques tels que le chêne, le genêt, le buis, les serments de vigne, etc. etc. Il faut de grandes quantités de petits bois pour obtenir une température constante du four qui se situe aux alentours de 1000 degrés. Et pour obtenir de la chaux par calcination du calcaire, les hommes se relayaient pendant 3 jours et 3 nuits. La dernière opération consiste à refroidir la chaux avec de l'eau pour provoquer sa désintégration. La poudre obtenue sera conservée à l'abri de l'humidité dans des sacs de toile. Aujourd'hui, la plupart des fours à chaux ont disparu et seul un œil averti en devine quelques-uns dans nos vallées pyrénéennes au milieu de la végétation abondante. D'ailleurs, certains lieux dits au nom évocateur attestent de leur présence comme four chaud, four code, fourque, etc. etc. Donc là aussi, quand vous visitez des villages abandonnés, faites le tour un petit peu dans la végétation et je ne serai pas surpris que vous découvrez un four à chaux. Allez, ne nous attardons plus, voici votre randonnée sur 2 jours pour découvrir et contempler des villages abandonnés et semi-abandonnés. Nous partons au nord de la Sierra de Guara. Tout d'abord donc, on franchira le tunnel d'Aranuet-Bielsa, puis redescendre jusqu'à la cité médiévale d'Insa, prendre la direction de Biescas-Broto, c'est la N260, et à la sortie du village de Boltania, empruntez sur la gauche la HU322 en direction de Sabinanigo. Et 7 km après le village de Molino-Escartin, une piste démarre à notre main gauche pour rejoindre le village de Nocito. Il y a un panneau indicateur. Là, on garera le véhicule au troisième croisement, c'est-à-dire à 6 500 km de la route. Allez, vous êtes en jambes, le sac est prêt, nous sommes partis. Le nord de la Sierra de Guara n'est qu'une succession de villages abandonnés ou partiellement abandonnés, reliés les uns aux autres par des sentiers historiques qui empruntent des vieux chemins bordés de murs de pierre sèche et qui deviennent des lieux enchanteurs, témoins de notre temps. Au croisement, à 1180 mètres d'altitude, nous laissons la piste principale qui rejoint Nocito pour emprunter celle de droite partant vers le sud-ouest. Rapidement, sur notre droite, au-dessus d'un terre-plein, se trouve le dolmen d'Ibérique, appelé plus populairement la cabane des sorcières. On aura fait 15 minutes de marche. Ce dolmen de grande dimension est dans un état de conservation exceptionnel. Les premières fouilles archéologiques remontent à 1949, où quelques ossements et poteries ont été retrouvés. Dans les environs, furent également découverts un petit couteau en silex. Après un bol d'air préhistorique, nous poursuivons notre marche sur la piste, dénudée de végétation, jusqu'au prochain croisement, qui est à peu près à une heure de marche. Là, on prendra la piste de gauche, qui nous permettra d'aborder une série de virages, et sur notre gauche se dessine un ancien chemin bordé de vieux murs de pierre sèche, qui nous indique de le suivre pour rejoindre les premières maisons du village abandonné d'Ibérique. Et on aura parcouru 1h30 de marche. Ce village fantôme, étouffé par une végétation conquérante, est un lieu enivrant, car perdu au bout du monde. La vie ancestrale semble s'être figée, comme si un sortilège avait endormi le pueblo pour l'éternité. Devant l'église, on empruntera le GR16, descendant vers le sud. Il longe la gorge paradisiaque de Orlato, au joli trou d'eau bleu émeraude, creusé dans une nature omniprésente. Des milliers de cascades qui sculptent leur chemin dans un massif aride et sauvage vous inviteront à la baignade. Un croisement de chemin de randonnée nous éloignera du barranco de Orlato pour prendre vers le sud-est le GR qui indique le village de Nocito. On aura parcouru 2h45 de marche. Nous voilà devant l'authentique village de Nocito où s'impose devant nous le majestueux pont romain et la belle fontaine du village, où il est bon de s'attarder, et on aura mis 4 heures pour atteindre le village de Nocito. Au pied des parois nord du Tozal de Guara, Nocito est composé de 2 quartiers, celui de San Juan et de San Pedro. Durant les années 1950, il fut touché par l'exode, comme tous les villages du coin. De 300 habitants, la population est passée à moins d'une dizaine. Aujourd'hui, grâce à quelques courageux qui continuent à vivre sur ces terres, la vie est revenue dans ce village soutenu par l'attrait touristique que représente la Sierra de Guara. Nous y trouvons d'ailleurs un bar, épicerie, auberge, un restaurant et même un camping. Pour la suite du parcours, sur l'extrémité nord du village, non loin de l'épicerie, le GRE1, avec un panneau indiquant l'ermitage de Santurbès, sera notre suite logique pour la réalisation de notre boucle des villages abandonnés. Il débouche sur la piste principale qui relie le village de Nocito à celui de Bara, qui sera notre prochain objectif d'ailleurs. Donc nous allons la prendre à droite, donc vers l'est. Celle-ci sera agrémentée par des vieux chênes centenaires jusqu'au village partiellement abandonné de Bara. Et depuis le départ, nous aurons mis 7 heures pour y accéder. Sur le clocher d'ailleurs de l'église, nous pouvons apercevoir un ancien cadran solaire en état vétuste et à côté les tombes du cimetière encore entretenues par un des seuls survivants du hameau. Au nord du hameau, un chemin remonte en rive droite le rio Alcanadre. Nous arrivons devant l'ancien moulin de Bara. Et malgré son état vétuste, nous pouvons observer les différents matériaux et le mécanisme encore intact qui permettait de moudre le blé pour le rendre en farine. La remontée du rio Alcanadre jusqu'au moulin recèle des trous d'eau bleue émeraude qui seront une tentation à la baignade et à la farniente. Après celui-ci, on rejoindra la rive gauche du rio pour emprunter une sente avec des cairns qui longent le ruisseau de Mids en rive gauche puis en rive droite avant d'arriver au village abandonné et peu connu de Mids. Là, on aura mis 8 heures de marche. Il est posé sur une terrasse naturelle et en face de lui, il y a le fameux canyon du Gorgas Negras. Le village, pratiquement en ruine, laisse entrevoir l'église et une ancienne forge. Ce lieu très calme et paisible sera un endroit idéal pour notre bivouac. Allez, le deuxième jour de rando, c'est le retour bien sûr. Donc on va revenir sur nos pas jusqu'au village de Bara, puis on empruntera une partie de la piste jusqu'au ruisseau de Cardito. On aura mis depuis le départ 1h15. Sur notre droite, un sentier balisé quitte la piste pour évoluer en parallèle à celle-ci et rejoindre un autre petit coin de paradis. C'est un immense trou d'eau avec une cascade de plusieurs mètres qui nous invite à la baignade. La suite du parcours se réalise sur un chemin serpentant entre terrasses pinèdes et champs d'oliviers, dans une végétation méditerranéenne, jusqu'au village partiellement abandonné de Ussed. On aura mis 2h45 depuis le départ. Il est fait de granges avec de belles aires de dépiquage en forme de terrasses arrondies délimitées de pierres. Ici, le dépiquage se faisait à l'aide du trio, une planche grossière garnie d'éclats de silex tranchants qui étaient récupérés sur les contreforts du Tozal de Guara. Continuons à suivre notre antique chemin de montagne, le GR1. Toujours vers l'ouest, il rejoint le ruisseau d'Abelada, que nous traverserons par un passage à gué avant d'arriver au hameau partiellement abandonné de Bantué de Nocito. On aura mis 3h15. D'un village à un autre, nous retrouvons toujours le même style architectural de maison qui accueillait plusieurs générations d'individus. Le rez-de-chaussée réservé pour les bêtes, la réserve alimentaire et le fournil qui était en principe une cheminée aragonaise où tout le foyer se retrouvait pour manger dans l'âtre de la cheminée autour d'un feu central. Plus rarement, comme au village abandonné d'Outine, nous pouvons observer un puits intérieur. À l'étage, c'est l'habitation, avec ses petites pièces badigeonnées de chaux bleuté pour repousser les mouches et autres insectes. Les balcons servaient de séchoirs, ainsi que les combles d'ailleurs. Parfois, les restes d'une ruche horizontale, dite ruche aragonaise, se trouvent sur place, et ces ruches, l'origine est arabe. Allez, revenons à notre randonnée. Nous rejoignons le ruisseau de La Torre, que nous suivons un temps en rive droite, avant de nous replonger dans la végétation aride, et déboucher devant un vieux et majestueux chêne, non loin de l'ermitage Saint-Urbès. On aura mis 4 heures de rando. Plusieurs fois centenaire, ce chêne il mesure pas moins de 21 mètres de haut et il a un diamètre de tronc à sa base de 2,70 m. Dans cette région, les anciens évitaient de couper des arbres pour se chauffer, mais préféraient scier les branches en alternance d'une année à une autre. C'est pour ça qu'on y trouve des vieux arbres là-bas. Allez, quelques pas encore et nous voilà devant l'ermitage Saint-Urbès qui date du 16-17e siècle. L'ermite de Saint-Urbès était un grand voyageur, il est né à Bordeaux en 702. Il traverse les Pyrénées pour séjourner à Viau, dans le canyon de Haniscle, puis à Cerezola, avant de finir sa vie ici à Nocito, où il meurt centenaire, en l'an 802 donc. Sa sépulture, située devant le monastère, fut profanée pendant la guerre civile. Les Aragonais vénérait cet ermite, qui lui attribuait le pouvoir de faire venir la pluie si précieuse dans ces contrées arides. Et la tradition voulait que le premier enfant de chaque famille s'appelle Urbès. Allez, pour la suite de notre boucle, rejoindre derrière l'ermitage le groupe de bergerie pour emprunter la suite du sentier qui rejoint la piste principale Nocito-Bara. On aura mis 4h15. Cette piste, vous la connaissez, c'est celle qu'on a rejoint quand on est parti donc de Nocito. Mais là, on partira donc à droite vers l'ouest jusqu'au prochain croisement à l'entrée de Nocito et on prendra la piste de droite qui remonte vers le nord allongeant le rio Guatizalema, une occasion de plus d'ailleurs de se laisser séduire par les trous d'eau qui nous invitent à la baignade. Et après une longue montée qui arrive à un col, nous apprécierons la descente qui conduira rapidement au véhicule. Et là, on aura mis 6h30 de rando pour cette journée. Voilà, alors je vous donne 2 ou 3 renseignements complémentaires. La carte, c'est Sierra de Guara, échelle 1/40 millième. Autrement, au niveau difficulté, malgré la régularité des points d'eau que nous rencontrons, notre évolution se fait en plein soleil sur des pistes ou sur des sentiers qui traversent la végétation méditerranéenne. Donc, attention aux coups de chaleur. Autrement, notez qu'à Nocito se trouve donc le minimum vital, auberge, camping, épicerie, bar, eau. Sur ce, bonne rando à tous.